Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est en ce moment même que l'on débat de l'euthanasie et de la proposition de loi d'Olivier Falorni à l'Assemblée nationale, sans grand espoir devant les 3000 amendements qui ont été déposés. C'est un sujet d'actualité délicat, fort et émouvant, avec la voix qui porte de Françoise Hardy, que vous pouvez retrouver en replay sur l'application RTL, puisque Françoise Hardy était avec nous et avec Jean-Luc Romero hier dans notre émission. Si vous n'étiez pas là, écoutez-la, cette émission. Elle est pédagogique et vous explique en détail de quoi il s'agit réellement, loin des informations fantaisistes qui circulent parfois sur ce sujet. Soyez remerciés pour votre fidélité, nous sommes en direct et c'est un grand entretien que je vous convie aujourd'hui. Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une autre manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis. La résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer, en dépit d'adversité, écrit très justement le psychiatre Boris Cyrulnik. Paris, octobre 2018, Pauline patiente sur son scooter à l'arrêt pendant que sa compagne Tiffaine est partie acheter un bouquet de fleurs dans une boutique du 15e arrondissement. Quand survient le choc terrible, une voiture folle la percute et la projette à plusieurs mètres. Son conducteur, alors âgé de 90 ans, en a perdu le contrôle. À 28 ans, Pauline est amputée de la jambe gauche. Et c'est précisément à ce moment-là que je l'ai rencontrée, bouleversée par l'épreuve qu'elle traversait et puis bluffée par ce que je percevais déjà dans son regard. Un furieux élan de vie, un besoin d'en découdre avec ce destin qui lui faisait quand même un sacré sale coup. Aujourd'hui, Pauline, elle est dans ce studio. Elle est encore plus canon. Elle a la tête pleine de projets qui laissent sans voix et qui en disent long sur le chemin qu'elle a parcouru. Et c'est ce parcours inspirant et plein d'espoir qu'elle nous raconte en direct sur RTL jusqu'à 15h30. Pauline Desroulettes, bonjour.
Bonjour Flavie.
C'était il y a 2 ans. C'est ouais. Fou, hein. Et c'est la première fois que... Enfin, c'est pas la première fois qu'on se revoit, parce qu'on a eu l'occasion de se recroiser depuis, mais que vous êtes, que je vous vois en tout cas, à RTL, sur vos deux jambes.
Effectivement, c'était il y a 2 ans qu'on s'est rencontrés.
Ça fait bizarre de revenir ici. Hein.
Ça fait bizarre. J'avais quelques souvenirs qui me revenaient là, ouais. Avant de rentrer dans ce studio, puisque c'est un peu à partir d'ici que tout a commencé finalement. Que je vous ai rencontré, Pascal et vous, et j'ai aussi croisé la route de Monsieur Castaner à l'époque, le ministre de l'Intérieur,
ouais.
Purement par hasard, que j'ai pu interpeller. Dans le cadre du projet de loi, on en parlera, oui. Que je défends. Et voilà, ça me fait vraiment très plaisir de revenir dans ce studio et d'être invitée dans votre émission.
Oui, pour un grand entretien, parce qu'il s'en est passé des choses en 2 ans. Pour revenir quand même, si vous le voulez bien, sur cet après-midi d'octobre 2018, c'est pas un accident comme les autres, hein, que vous avez subi. Et si tout accident, effectivement, inspire la révolte, celui-ci en particulier, je dirais.
C'est vrai que le propre d'un accident, c'est l'injustice. Le mien l'est effectivement dans la mesure où je n'étais pas en circulation. J'étais sur un espace dans lequel on est censé être en sécurité puisque je me trouvais sur le trottoir. Et effectivement, en une fraction de seconde, on bascule dans le camp des victimes. Et ce jour-là, je n'ai pas eu le choix. J'étais simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Heureusement, je me dis maintenant que j'ai la chance d'être en vie. Je pense que je l'ai tout de suite réalisé quand j'étais au sol, puisque j'ai été projetée à plusieurs mètres. En revanche, j'ai compris tout de suite ma vie allait être différente, puisque j'ai vu que j'avais perdu ma jambe sur le coup. Et portée par l'amour de Tiffaine dès le début, au sol, j'ai pu m'en sortir et commencer à me battre. Et ça a été le début d'un long combat.
Est-ce que la colère de l'injustice, parce que je parle de votre regard et j'y voyais déjà, alors que vous veniez de subir votre amputation, je voyais déjà quelque chose dans vos yeux qui me faisait me dire, Pauline, elle va pas se laisser, elle va pas s'effondrer. Est-ce que la colère de l'injustice est un moteur à un moment donné pour se relever? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, ok, ma vie bascule et d'une certaine façon, elle est foutue d'une certaine façon. En tout cas, je ne pourrais pas vivre tel que je l'entendais, ou est-ce que vous vous êtes dit « Ok, ma vie bascule, mais je vais lui donner un sens différent ». Est-ce que vous l'avez dit rapidement, ça ?
Je pense effectivement que quand on se retrouve dans une situation assez extrême, il y a quelque chose qui est plus fort que tout, c'est l'instinct de survie.
Ouais.
Et avec des prédispositions aussi pour se battre. Moi, c'est vrai que le sport m'a beaucoup aidée dans ma vie d'avant. J'ai, dès le départ, décidé de transformer ce drame en quelque chose d'autre. De faire tout de suite, en tout cas d'essayer de faire le deuil de celle que j'étais avant, puisque c'est un deuil, on laisse une part de nous quand on vit un accident de vie comme celui-ci. Et voilà, j'ai voulu rebondir. Évidemment, c'est un long chemin. La colère, elle nous porte. Elle peut être positive, elle peut être négative aussi. Et c'est des phases. C'est malheureusement le temps qui aide beaucoup aussi à apaiser les choses. Moi, je suis passée par plusieurs étapes. Depuis 2 ans, il s'en est passé beaucoup. Et évidemment, sur le coup de cet accident, j'avais énormément de colère qui me desservait plus qu'autre chose. Mais j'ai tout de suite essayé de me fixer des objectifs positifs.
Alors, on va se retrouver dans un instant parce que, évidemment, des objectifs positifs, c'est, je dirais, pas à pas. Hein, même quand on a effectivement une jambe en moins, à un moment donné, il faut mettre progressivement un pied devant l'autre. Bon, aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs si vous nous suivez sur RTL.fr, bon, Pauline, elle tape dans la balle et on espère les JO, quoi.
C'est le projet.
Mais attends.
Quelques heures après l'accident, en salle de réveil, j'ai dit à mes proches, à Tiffen, tous ceux qui m'entouraient, que je voulais faire les Jeux Paralympiques à Paris en 2024. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête, mais c'est devenu l'objectif de ma vie.
Attends, et puis on s'y approche, hein, vraiment, là, c'est très sérieusement. On est ensemble jusqu'à 15h30 avec Pauline Desrouledes. Elle va nous raconter évidemment son parcours et cette façon, à un moment donné, qu'elle a eu de se redresser et pour pouvoir aujourd'hui être invitée dans ce studio et marcher jusqu'à nous, quoi. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Saint-Vie Flamand sur RTL. Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Oh, mais je ne suis pas toute seule. Je suis en compagnie de Pauline Desrouledes. Vous connaissez peut-être son histoire à Pauline. En octobre 2018, elle subit un accident, parce que c'est vraiment ça. Hein. Vous avez subi un accident très, très violent et je dirais révoltant, puisque vous avez été fauché par une voiture folle alors que vous étiez sur le trottoir et que, à cette funeste occasion, vous avez donc perdu votre jambe. Aujourd'hui, vous êtes là, en face de nous, et vous êtes debout. Grand espoir de l'équipe de France en tennis fauteuil, donc vous allez nous raconter votre parcours de résilience. C'est fou, parce que au moment où vous vous êtes réveillé après une opération, vous avez dit à vos proches, je vais faire du tennis fauteuil. Vous faisiez déjà du tennis auparavant ?
Oui, tout à fait, en loisir, j'avais fait de la compétition, mais c'était pas mon métier, c'était pas ma vie. Petite rectification, je n'ai pas dit je vais faire du tennis fauteuil. J'ai dit je veux faire les Jeux Paralympiques à Paris 2024.
C'est encore plus.
Je savais pas comment.
Pardon. Je veux faire les JO. C'est encore plus fort. Oui, c'est vrai.
C'est ça. Mais je pense que déjà j'avais des a priori sur le tennis parce que je savais que ça se faisait en fauteuil. Ouais. Et voilà, moi je j'ai pas honte de le dire. J'avais beaucoup d'a priori, de préjugés sur l'image du fauteuil roulant. C'est vrai que j'en avais jamais vu autour de moi. Comme beaucoup de personne. Le handicap fait encore peur en France. Malheureusement, on est très en retard là-dessus. Et je refusais l'idée de faire mon sport, le tennis, en fauteuil. Donc ça a mis un certain chemin, des rencontres. Et puis finalement, quand j'ai essayé, j'ai tout de suite adhéré.
Alors, ce fauteuil, il vous accompagne, mais vous avez surtout aujourd'hui une prothèse. Vous avez subi de nombreuses opérations après l'accident, parce que vous avez perdu votre jambe lors de l'accident.
Effectivement, ma jambe a été arrachée sur le coup, et il a fallu me prendre en charge rapidement. J'ai été à l'hôpital militaire de Percy. Je suis bien tombée, parce que c'est un hôpital, du coup, comme son nom l'indique, militaire, avec des combattants, un corps militaire qui prend vraiment bien soin de nous. Et j'ai subi une douzaine d'anesthésies générales, plusieurs opérations, puisqu'il a vraiment fallu, on va dire, réparer un peu ce
corps meurtri. Quoi.
Ce corps meurtri, exactement. C'est pas une amputation classique, puisque moi, voilà, ça a été du fait de l'accident, donc il a fallu, ça a pris un certain temps. Il y a le temps incompressible de la cicatrisation qu'on peut pas accélérer, malheureusement, et j'ai dû faire preuve de beaucoup de patience, ce qui n'était pas ma qualité première. Mais au bout de 4 mois, finalement, j'ai pu remarcher grâce à une prothèse. J'ai pu faire mes premiers pas.
Mais moi, ça me paraît très rapide, 4 mois. Et vous venez de me dire, non, ça aurait pu être plus rapide que ça.
Ça aurait pu être plus rapide parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'opérations, du coup, beaucoup de temps de cicatrisation. Et c'est vrai que je devais attendre avant de m'appuyer, on va dire, sur mon moignon. J'aime pas ce mot, mais c'est le mot. Et voilà, moi, ça a toujours été trop lent pour moi, de toute façon, ce temps-là, parce que c'est un temps qui est à l'arrêt, où on subit, on doit être inactif, on doit pas bouger, on a mal, beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs et aussi des moments très 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 compliqués sur le plan psychologique, où moi j'avais la chance d'avoir énormément de passages pendant la journée. C'était pas le Covid, heureusement, et donc je pouvais être très bien entourée. Et c'est vrai que le soir, j'étais seulement avec ma mère et Tiffen, qui ont eu des grands moments de solitude, puisque c'est le moment où la nuit tombe et on se rappelle de tout. Et c'est très compliqué parce qu'on se refait le film, on réalise à nouveau ce qui s'est passé. Et voilà, moi j'aimais ma vie d'avant et je suis encore très nostalgique de ce que j'étais avant, mais j'essaye d'être dans une autre dynamique. Encore une fois, plus positive.
Vous deviez affronter le défi de remarcher un jour, de porter une prothèse. Les JO, évidemment, puisque c'était le défi ultime qui approche en 2024. Vous deviez affronter la colère. Vous deviez affronter le deuil de cette vie d'avant. Comment est-ce qu'on pourrait décrire cette période, Pauline, d'un point de vue psychologique ?
Ça a été les premiers mois après l'accident ont été une période très chaotique pour moi. Je vais pas mentir, moi j'ai vraiment aucun mal à parler du fameux envers du décor, celui qu'on essaie de cacher le mieux possible sur tous les réseaux sociaux. Moi j'essaie vraiment d'en faire part parce que je pense que c'est important. C'est très violent un accident de vie quel qu'il soit et sur le plan psychologique. Voilà, moi j'étais comme les autres avec mes deux jambes dans ma vie tranquille.
28 ans.
À penser que ça n'est arrivé qu'aux autres
en fait. La vie
devant
vous, ouais.
Et encore une fois, quand ça nous touche personnellement, on n'a pas le choix.
Moi,
j'ai jamais eu le choix en fait. C'est toujours ce que je me suis dit et aussi porté par les gens qui étaient autour de moi, les militaires qui étaient autour de moi. J'avais pas le choix et je pouvais pas me plaindre en fait parce que j'étais en vie aussi.
Mais cet envers du décor, c'est quoi ? Ce sont des moments de rage, des moments de découragement, des moments de d'espoir qui sont des petits espoirs, hein, je dirais, les uns après les autres, de se dire voilà, je vais y parvenir. Ou est-ce que par moment vous vous disiez bon non, je craque quoi, j'abandonne.
C'est les montagnes russes en fait, les montagnes russes émotionnelles parce qu'on passe par des états d'euphorie où on revoit nos amis qui sont heureux de nous voir en vie et on se sent entouré et puis le soir quand tout le monde doit partir et qu'on reste seul dans sa chambre. C'est vrai que les moments seuls, ils sont très très compliqués parce qu'on a le temps de penser. Et moi, finalement, je ne voulais pas penser à ce qui venait de m'arriver. Donc voilà, il faut gérer. Les douleurs aussi sont très compliquées.
Ces fameuses douleurs fantômes ?
Alors à l'époque, c'était pas encore les douleurs fantômes. Ouais. C'est voilà, les douleurs physiques liées à tout ce qui m'était arrivé. Donc voilà, on est complètement sous l'emprise évidemment des anesthésies générales parce que c'est violent dans le corps, ça
bien
fait
sûr.
Des dégâts. Donc on est dans une espèce de bulle. Et en même temps, on se sent aussi en sécurité. Moi, c'est vrai que Percy, mon hôpital, ça a toujours été ma maison et ça l'est encore. Et finalement, j'étais dans cette petite bulle soignée par tout ce personnel soignant qui ce sont mes sauveurs, c'est les sauveurs de l'ombre. Si j'ai vraiment eu la chance d'être hyper bien accompagnée sur tous les plans.
C'est ça.
Après, voilà, évidemment, il y a des moments plus compliqués que d'autres.
Apprivoiser aussi un nouveau corps.
Hein, tout à fait.
Parce que c'est vrai que regarder son corps qui n'est plus celui qu'il était, ce doit être quelque chose de vertigineux. On va se retrouver dans un instant, Pauline, et vous allez nous expliquer comment vous avez rencontré cette prothèse.
Tout à fait.
Parce que ça a été quand même, parce que maintenant c'est votre jambe.
C'est une extension de moi, c'est ma jambe. C'est ma jambe de robot, je l'appelle.
C'est votre jambe
de robot. Et il y a des enfants qui disent que c'est une jambe de super-héros, j'aime bien.
Ouais, très bien. Voilà, super-héroïne, elle est avec nous jusqu'à 15h30. À tout de suite.
RTL. On est fait pour s'entendre. Vous êtes bien sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL.
Pauline Desrouledes, lorsque l'on se retrouve sur un lit d'hôpital, qu'on a 28 ans, qu'on avait des jambes pour faire du tennis, des jambes pour courir, des jambes pour gambader, des jambes pour danser, des jambes, je sais pas, pour faire l'amour, enfin bon, et que on voit son corps qui tout à coup nous est évidemment familier puisque c'est le nôtre, mais n'est plus le même. On avait fait une émission sur ce thème-là il y a quelques années et tous nous disaient il faut réapprivoiser l'image que l'on a de soi et ce corps qui finalement était tout à fait valide et entièrement à nous.
Ouais. Effectivement, c'est très compliqué. Je vais pas dire que j'y suis encore arrivée.
Parce que visuellement, c'est un truc qui...
Moi, je peux pas mentir. Je trouve ça moche. Voilà, c'est sûr que ça altère forcément la confiance en soi qu'on peut avoir, l'image qu'on a de soi qui est abîmée. Après, j'essaie de passer outre. C'est vrai que quand je suis en tenue de sport et que j'ai ma prothèse, je trouve ça plutôt stylé. Ça fait un petit côté guerrier. En revanche, voilà, moi, l'été dernier, j'avais des mariages, j'ai dû me mettre en robe. Pour moi, une prothèse, c'est pas féminin. J'ai du mal, en tout cas, à l'association de la prothèse assez dure, on va dire, visuellement à avoir. Après, il y a des prothèses esthétiques qui existent et j'en suis pas encore là parce que c'est encore récent. Mais voilà, la prothèse, c'est visuel, on la voit. Et c'est vrai qu'associé à une robe, moi, j'ai encore du mal à assumer finalement. Mais c'est comme le regard des gens, c'est un long chemin qu'il faut affronter, ça évolue et il se passe des choses dans notre vie. Et puis moi, j'essaye d'être positive. C'est vrai que je ne suis plus la même que celle qui était sur son lit d'hôpital, à être dans la colère absolue, à être dans la douleur et finalement à pas s'aimer. J'essaye tous les jours de me réapprendre à m'aimer. C'est un long travail et heureusement, je suis encore une fois très bien aidée.
Alors
j'allais dire,
le regard des autres, le regard de l'amour, le regard... Parce que c'est pareil, votre compagne, Tiffaine, était avec vous le jour de l'accident et vous nous l'avez dit il y a un instant, l'amour que Tiffaine m'a donné tout de suite au moment de l'accident, enfin cette façon qu'elle a eue visiblement de vous accompagner, vous a touché. Tiffaine est toujours dans votre vie.
Oui.
Est-ce que vous avez senti que c'était un lien qui se renforçait dans l'épreuve? Est-ce que vous avez eu peur? Comment est-ce que vous avez appréhendé ça?
Effectivement, elle a tout de suite été là, comme si elle devinait toutes les peurs que j'avais à ce moment-là au sol, et elle m'a pas quittée. C'est vrai qu'elle a une position pas aussi évidente, parce que moi, je trouve que sa place, c'est la place des fameuses victimes de l'ombre, qui ne sont pas blessées physiquement, mais qui vivent quelque chose de très traumatisant sur le plan psychologique. Donc, on a été très très fortes dans cette épreuve la plus extrême. Et après, finalement, ce qui paraissait plus dur, c'était le quotidien, la routine, en fait, le retour à la vie normale, puisqu'on avait démarré très très fort avec ce drame. Et c'est vrai que son amour m'a sauvée, son amour me porte. Tiffaine, elle m'a jamais regardée différemment de celle que j'étais avant, et forcément ça aide tous les jours. C'est très précieux, et c'est pour ça que moi je me sens très privilégiée d'avoir cet amour-là dans ma vie.
Forcément ça aide, ça accompagne. Ouais. Cette fameuse prothèse. Ouais. Alors, donc ce corps que l'on apprivoise, cette prothèse qui n'est pas pour l'instant totalement en harmonie avec des petites robes d'été, mais cette prothèse, vous vivez avec. Comment est-ce que ça se passe? On réapprend à marcher, on fait connaissance avec l'objet?
C'est vrai que en fait, on réapprend une technique de marche qui normalement est innée.
Ben voilà.
En fait,
on marche dès la naissance. Il y a ce fameux test.
On se souvient pas de ses premiers pas, mais c'est censé être inné. Et en fait, on nous apprend qu'il faut appuyer, charger la prothèse, mettre un appui pour que le genou mécanique se plie. Et au début, c'est évidemment pas naturel. Il faut prendre confiance, dans cette prothèse puisqu'on a des nouveaux appuis. Et c'est pour ça que la rééducation est très très importante, et que moi, à partir du moment où le 27 février, 4 mois après, 2019, j'ai remarché, j'ai entamé une longue période de rééducation, et on marche, on fait du kiné.
Donc voilà, c'est ça. Donc avec un kiné, ce sont des séances qui vous apprennent, pour la première fois de votre vie, vous avez appris à marcher, quoi.
C'est
en fait.
C'est ça, j'ai dû apprendre à marcher, et ça demande beaucoup d'efforts.
Il y a des accidents,
ça demande beaucoup d'efforts, parce qu'au début, c'est pas du tout naturel, donc on doit se concentrer pour bien lancer la prothèse, pour faire un pas en avant, et c'est très énergivore. C'est vraiment les premières semaines de rééducation, moi j'étais épuisée, parce qu'on passe de 4 mois, en tout cas moi je suis passée de 4 mois d'inactivité alitée, à un effort intense tous les jours. Donc c'est vrai que c'est très fatigant, mais c'est incontournable, parce que si on commence à mal marcher dès le départ, on prend des mauvaises habitudes, du coup après il peut avoir des problèmes de santé, des problèmes de dos plus tard. Moi c'est vrai que j'étais très bien encadrée, et on a tout de suite été très exigeant avec moi, en me disant qu'il fallait que j'ai une technique de marche parfaite, puisque j'étais jeune et que j'allais devoir faire le reste de ma vie avec cette prothèse, et il fallait absolument que je marche bien, quoi.
Ça se règle, une prothèse? Est-ce qu'on l'a j'imagine qu'on l'a faite sur mesure sur votre corps. Ça a un coût d'ailleurs, c'est remboursé par la Sécu. Vous avez pu bénéficier d'une prothèse,
adaptée finalement au profil que j'ai. C'est vrai que c'est vraiment du sur mesure. Moi j'ai une prothèse qui me permet une prothèse sportive, on va dire, qui me permet de porter des charges lourdes, de trottiner même, d'aller dans l'eau. Pour moi c'était très important de rentrer dans l'eau, rentrer dans la mer debout. Finalement je pense que quelque part j'ai gardé cette fierté de pouvoir être debout. Je sais que c'est une chance, parce que j'aurais pu avoir pire. Et d'ailleurs c'est ce que je me suis dit quand je suis rentrée dans la rééducation et que j'ai vu les accidents de vie autour de moi. Ça fait vraiment réfléchir, et j'ai tout de suite compris qu'il y avait vraiment pire que moi et que je ne pouvais pas me plaindre.
Vous pouvez marcher, vous pouvez donc monter les marches?
Je peux monter les marches, mais pas comme vous, pas au même rythme.
D'accord,
un peu plus
donc je vous
lentement, mais c'est pas grave.
On peut danser?
Oui, d'une certaine manière. En plus, moi, j'adore danser, donc c'est vrai j'essaye de. En fait, moi, maintenant, ma prothèse, je me dis pas que je ne peux pas le faire. J'essaye de ne pas appréhender ce qui va se passer, les actions que je vais pouvoir faire. J'ai pu refaire du ski. Il y a quelques temps, j'ai fait une randonnée. Génial. Et je ne me mets pas de limites. Et on verra sur le moment. Et ça, c'est Tiffany aussi qui me l'avait dit à l'époque. Tu pourras tout refaire comme avant, différemment, mais tu pourras tout refaire comme avant.
On va faire une petite pause puisqu'Olivier Bois vient de rentrer dans ce studio. On va faire un tour par l'information sur RTL et on poursuit votre parcours. Sur la photo derrière nous, vous jouez au tennis, la prothèse n'est pas là.
Non.
Vous allez nous expliquer comment ça se passe justement sur un court de tennis avant
avec
les JO. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Pauline Desroulettes est avec nous, elle a 30 ans Pauline et vous entendez son parcours depuis 14h30, on est ensemble encore pendant une demi-heure sur cette antenne. Pauline, alors, on a parlé de la vie d'avant, il y a un instant, maintenant on va parler de la vie future, c'est-à-dire que vous vous êtes redressée, je dirais, après un terrible accident de la circulation, vous avez perdu votre jambe, vous avez fait connaissance avec votre corps, vous avez fait avec ce nouveau corps, c'est le même, mais différent. On va dire ça comme ça. Et puis, vous avez fait connaissance avec cette prothèse qui vous accompagne. Et aujourd'hui, vous pouvez effectivement vous réjouir, en tout cas savourer le plaisir de rentrer dans l'eau debout et de continuer à vivre les mêmes choses, mais différemment. Donc, c'est un premier... Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce chemin parcouru quand même? Vous savez, parfois, on dit aux gens, c'est quand même super admirable. Et on a envie de dire, j'avais pas trop le choix. Mais ça reste admirable.
Oui, c'est vrai que j'ai toujours du mal avec... les jolis compliments qu'on peut me faire, je les prends volontiers parce que ça me donne énormément de force pour continuer ce que je fais. Mais je crois que je me rends pas bien compte. J'essaye d'avancer et du coup je suis dans ma bulle, concentrée sur mes objectifs. Donc j'arrive pas beaucoup à avoir de recul sur moi-même.
Vous êtes entraînée aujourd'hui ?
Oui, ce matin, oui.
Combien d'heures ?
Première partie de la journée, 2 heures. Là et là je suis avec vous cet après-midi avec grand plaisir. Donc je m'entraînerai demain.
D'accord. Alors vous entraînez parce que vous avez donc décidé de vous lancer dans la course aux JO, aux Jeux paralympiques. Oui, mais c'est les JO.
C'est la même compétition,
mais ouverte effectivement aux personnes souffrant de handicap. Votre prochain défi, c'est le championnat de France quand même, au mois de juin.
Voilà, fin juin,
de tennis fauteuil. Vous jouiez au tennis auparavant, et puis un jour, vous vous êtes dit, ok, d'accord, qu'à cela ne tienne, j'ai ma prothèse, mais je vais aussi avoir un fauteuil roulant, et je vais donc faire du tennis fauteuil.
Alors ça n'a pas été tout de suite facile, encore une fois, parce que j'avais un blocage psychologique avec l'image du fauteuil. Mais j'ai fait les bonnes rencontres. J'ai participé à un programme de détection qui s'appelle La Relève, où la Fédération Française de Tennis m'a vendu du rêve, m'a convaincu de me lancer dans l'aventure et avoir une structure d'entraînement pour préparer ces jeux. Et j'ai aussi fait la rencontre à Roland-Garros de Stéphane Houdet
qui est champion.
Qui a été champion olympique, champion du monde numéro 1 français et qui est devenu un peu mon grand frère maintenant, mon parrain. Ouais, j'espère suivre ses traces parce que c'est un grand champion. Et il m'a dit cette phrase toute bête, il m'a dit, tu sais Pauline, tu peux être debout. Moi j'arrive debout pour faire mon match sur le court. Je me mets en fauteuil pour faire mon match et je repars debout. Et du coup, ça m'a fait comprendre que de jouer au tennis en fauteuil, ça ne me dispenserait pas pour autant d'être debout dans la vraie vie. Et j'avais besoin de l'entendre, en fait. Mmh. Et à partir de là, j'ai testé, j'ai essayé, et c'est très, 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 très physique, figurez-vous.
Alors, mais ça ne m'étonne pas. Mais ça ne m'étonne pas, parce que ce doit être très physique, et puis c'est pas le même tennis. Quand on joue au tennis, comme vous jouiez auparavant, et maintenant, vous avez dû réapprendre, finalement, la pratique de ce sport ?
Ah, totalement. Alors, c'est vrai que l'aspect technique, le bagage technique du tennis, je l'avais déjà du fait de mon passif de joueuse valide, mais c'est vrai que en fait nos jambes, c'est une roue de fauteuil, donc c'est pas les jambes qui déclenchent le déplacement, c'est le haut du corps qui pousse sur le fauteuil, donc c'est des nouveaux réflexes qu'il faut appréhender, et ça c'est compliqué, et c'est un travail de tous les jours parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas en fauteuil roulant au quotidien, donc c'est un outil de travail de plus quand je suis sur le court de tennis.
En fait vous êtes vachement équipée quoi.
Oui, il y a beaucoup d'équipements, c'est vrai que je ne voyage pas léger.
J'imagine. Et vous rentrez, vous êtes toute bronzée là parce que vous avez eu cette chance de pouvoir aller prendre le soleil. C'est intéressant parce que juste un détail technique, j'ai toujours été nulle déjà en tennis avec mes deux jambes. Comment effectivement a-t-on les mains occupées au tennis fauteuil ? Et comment déplace-t-on son fauteuil? Vous venez de nous dire par un mouvement du bassin, mais ça se passe comment?
Alors, on pousse les roues. Il y a des mains courantes, là, que vous pouvez voir sur les fauteuils. Et on pousse les roues avec nos petites mains. Et c'est vrai que le plus compliqué, c'est la main directrice. On a la raquette et on doit se servir du manche de la raquette pour pousser la main courante. Donc ça, c'est très compliqué à choper au début. C'est vrai que moi, ma raquette m'encombrait au départ. J'avais envie de la poser. Et de toute façon, moi, quand j'ai commencé le tennis fauteuil il y a un an et demi, ma coach ne m'a pas fait prendre tout de suite ma raquette puisqu'il a vraiment fallu que je roule énormément. Et c'était la récompense finalement d'avoir le droit de prendre la raquette et de taper dans la balle. Donc j'avais la carotte au bout. Mais c'est vrai que c'est une technique totalement différente. Ça reste du tennis, mais c'est un autre sport.
On joue plus bas?
On joue plus bas, la hauteur, le plan de frappe. On a la particularité d'avoir le droit de laisser la balle rebondir deux fois, donc pour nous donner plus de temps, parce qu'évidemment, ça va vite. Les déplacements sont rapides, mais les échanges sont finalement plus lents. Et les deux rebonds, la possibilité du deux rebonds favorise ça. Voilà, sinon, c'est les mêmes règles, le même format, les mêmes surfaces. Donc là aussi, c'est selon la surface, le déplacement est plus ou moins difficile. Là, par exemple, je prépare deux tournois en Turquie sur terre battue, et c'est vrai que la terre battue, c'est très physique, puisque le moindre petit tas de terre tassée nous ralentit, donc ça tire un peu sur les épaules.
Ce tennis-là, et cette pratique quotidienne du tennis, c'est ce qui vous a permis de tenir aussi, Pauline, parce que ce sont des objectifs, là, pour le coup, on a toujours besoin, vous parliez de carottes, on a déjà toujours besoin dans la vie de nourrir des projets, mais là, en voilà un qui est incroyable et qui vous permet, vous, de...
C'est vrai que c'est une raison de me lever le matin, clairement.
Ouais,
c'est un peu l'ironie de mon sort. J'aimais ma vie d'avant, j'étais heureuse dans le domaine audiovisuel en tant qu'assistante réalisatrice et j'étais aussi professeure de tennis. Et finalement, j'aimais ma vie. Et la vie que j'ai aujourd'hui, elle est finalement un peu extraordinaire. Je réalise un rêve de petite fille en tant que sportive de haut niveau, mais tout ça avec une jambe en moins. Et bien sûr que si demain on me rendait ma jambe, je la reprendrais, évidemment. Mais j'essaye de plus me dire ça, parce que ça ne fait pas avancer. Et que, voilà, l'objectif, c'est Paris 2024 et que tous les matins, quand je vais m'entraîner, je pense qu'à ça.
J'ai hâte d'être en 2024. Déjà parce qu'on aura passé plein de trucs trop galères, parce que je me dis qu'en 2024...
Ça va être un bel événement qui va nous réunir tous.
On sera sans masque et tout, on sera tous réunis, ouais. On viendra tous vous applaudir et on n'aura plus ces foutus masques. Voilà,
on a tous hâte de ça, bien
oui,
sûr.
On se retrouve tout de suite sur RTL.
RTL, Ferry Flamand. Bon après-midi sur RTL. Are you happy now? 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Vous venez d'entendre Jean-Louis Aubert et sa chanson Où me tourner.
14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Et merci de vous tourner chaque jour vers nous entre 14h30 et 15h30. Aujourd'hui, c'est un grand entretien que l'on vous convie et vous faites la connaissance de Pauline Desrouledes. Pauline qui vient d'être sélectionnée en équipe de France en tennis fauteuil. Le prochain défi, ce sont les championnats de France. C'est au mois de juin et donc les JO 2024. Vous jouerez à Roland-Garros.
Ben oui, c'est le projet. C'est ce qui est prévu. Ça sera aussi un rêve de plus de petite fille de pouvoir jouer là-bas.
Pardon, parce que moi je suis assez bluffée par la rapidité de votre parcours, même si vous jouiez au tennis auparavant. Ça reste quand même un parcours très rapide pour être déjà en équipe de France un an et demi, quoi, deux ans et demi après votre accident et un an et demi après être.
C'est vrai que c'était la belle surprise de ces dernières semaines, ma sélection en équipe de France au cours d'un stage que j'ai fait avec l'équipe de France. Et je n'y croyais pas pour cette année parce que c'est trop tôt et qu'on a, à cause du Covid, pas pu faire la compétition et je n'ai pas pu, à mon grand désarroi, confirmer, faire mes preuves. Et moi, ça a été un grand moment, cette annonce en équipe de France, parce que c'est là, dans ces moments-là, qu'on réalise le chemin parcouru. Et voilà, et je peux le dire, je me suis sentie, enfin, j'étais assez fière. Et surtout très fière de porter les couleurs de mon pays. Pour moi, au-delà du défi personnel de réussir sur le plan tennistique, représenter la France, porter les couleurs de la France, pour moi, c'est très important et c'est symbolique après tout ce qui m'est arrivé.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui traversent des moments difficiles, similaires aux vôtres, ou d'une façon ou d'une autre en rapport avec ce que vous avez vécu? C'est-à-dire quand on a eu un corps valide, un corps dont on s'est servi, on ne se posait pas la question, on ne se pose pas la question en fait, comme vous ne vous la posiez pas à vous, hein, à l'époque, avant votre accident.
Bien sûr.
n'imagine pas devoir vivre un jour sans un membre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui traversent ce genre de choses ?
Ce que je dirais aux personnes qui traversent des épreuves, quelles qu'elles soient, c'est de ne pas renoncer et qu'ils ont la chance d'être en vie. Bien sûr, d'une manière différente, mais la vie, c'est tellement précieux. Ça peut basculer d'un instant à l'autre. Et moi, voilà, ce qui m'aide parfois, c'est de me dire qu'il y a vraiment 10 fois pire que moi. Donc chacun peut se le dire à son niveau. Il n'y a pas de hiérarchie de la douleur, il n'y a pas une hiérarchie dans les problèmes, petits problèmes. Mais je pense qu'il faut vraiment se battre, prendre toute la force qu'on peut prendre autour de nous. L'entourage est très important. Il faut pas renoncer. Et quand on n'a plus le choix, on est porté par une force un peu surnaturelle qu'on
découvre des ressources insoupçonnées.
Des ressources insoupçonnées qu'on n'aurait certainement pas déployées de la même manière s'il nous était rien arrivé. C'est une autre facette de nous. Et je pense que on finit toujours par s'en sortir.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes heureuse aujourd'hui, Pauline ?
Je suis sur la bonne voie pour être heureuse. Ouais. Je suis mieux. J'ai aussi à la suite de cet accident, ce qui a vraiment beaucoup changé de choses, c'est j'ai eu un échange avec le conducteur qui m'avait fauché.
Alors justement, on va y revenir parce que c'est devenu. Il y a des objectifs qui vous ont permis d'avancer. Et puis il y a un combat. Qui est le vôtre. On va y revenir. Cet homme qui vous avait donc fauché, 90 ans, vous avez été en contact avec lui ?
Alors en fait, j'ai pu obtenir un échange l'année dernière, en fait, après l'épisode, la première vague de confinement Covid. Et c'est un échange qui s'est inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. Absolument. C'est pas très connu en France. C'est un moyen, une médiation pour pouvoir échanger avec le responsable, la victime d'un accident quel qu'il soit. Et effectivement, j'ai pu parler à cet homme
parce que j'avais besoin de réponse.
Alors on s'est vu en visio, puisque voilà, par les temps qui courent, c'est à la mode les visios. Mais voilà, moi j'avais besoin de mettre un visage sur ce conducteur. Il y avait sa femme également qui était dans la voiture et qui était à cet échange. Et il y a clairement eu après cet échange un avant et un après, parce que moi j'avais besoin de beaucoup de réponses. J'étais très très en colère jusqu'à cet échange. Et finalement, le temps judiciaire est très long, les procédures sont très lourdes et ça déshumanise les victimes et les responsables. Et finalement, cet échange, il m'a permis de voir que voilà, en face de moi, j'avais un petit vieux, que ça pouvait être mon grand-père, et que cet homme-là était aussi meurtri que moi, que s'il y avait une loi sur les tests d'aptitude à la conduite, il l'aurait respecté. Et pour moi, c'est très important d'entendre ce qu'il avait à dire et d'avoir sa version de l'accident sur le plan personnel et aussi pour mener le combat que je mène maintenant dans la sécurité routière.
L'avoir eu au téléphone, l'avoir vu, ça a restauré quelque chose chez vous ? C'était
oui,
nécessaire ?
Je pense que j'avais énormément besoin d'avoir un visage sur l'homme qui m'avait fait ça. Je disais souvent que tous mes cauchemars, il n'y avait pas de visage. Et c'est important de mettre un visage sur celui qui a fait basculer notre vie. Ça m'a apaisée quelque part. Ça m'a apaisée et j'ai pu comprendre certaines choses. Et en fait, on ressort de cet échange. J'étais avec Tiffen, évidemment, et lui était avec sa femme. Et on se dit que c'est beaucoup de vies brisées pour quelque chose qui aurait pu être évité. Et ça donne aussi beaucoup de force. Moi, ça m'a donné de la force pour continuer, beaucoup d'énergie. Dieu sait qu'il m'en faut pour tout ce que je fais. Donc c'était vraiment positif.
Vous luttez pour la mise en place de tests d'aptitude à la conduite. Vous voulez que la loi change. Vous allez nous raconter ça dans un instant. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Vous êtes bien sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL.
Alors, Pauline Desroulaides, l'homme qui vous a fauché il y a 2 ans et demi avait donc 90 ans. Vous avez pu lui en parler, il avait 92. Vous nous avez expliqué à quel point, effectivement, ne serait-ce que de l'entendre prononcer votre prénom, c'était une façon d'humaniser quelque chose qui était resté extrêmement froid dans une procédure, évidemment, suite à votre accident. Ça fait maintenant 2 ans que vous luttez pour la mise en place de tests d'aptitude à la conduite. Je pense que la majeure partie des Français adhèrent à cette idée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors effectivement, à l'issue de cet accident où était impliqué un senior, s'est posée à nouveau la question des seniors au volant. Et quelques mois après mon accident, j'ai pris la force nécessaire pour mener ce combat qui me tenait vraiment à cœur, puisque je me dis que c'est assez dingue en France, un pays qui est quand même engagé dans la sécurité routière sur tous les fronts, avec notamment la vigilance sur le portable au volant, l'alcool, les stupéfiants. On ne commence pas par un basique, si je puis dire, d'un contrôle technique de la personne, au même titre que le contrôle technique qu'on fait de son véhicule. Et en France, on est un des rares pays où on a un permis délivré de manière illimitée, jusqu'à notre mort. Ouais. Et c'est assez dingue, et c'est vrai que depuis, je travaille avec la sécurité routière, je m'entoure de plusieurs ministres pour mettre en place des tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs, pas uniquement les personnes âgées.
Alors, on les passerait quand, par exemple ?
Alors, c'est encore à définir, mais disons que ça serait tous les 10 ans, après l'obtention du permis, une visite médicale. Et puis, si le médecin juge qu'il faut pousser la rencontre, la personne serait envoyée dans des auto-écoles pour faire un test de conduite en situation réelle, avec un moniteur agréé et sur un simulateur. Et à l'issue de ces tests, s'il est déclaré inapte, il ne pourra plus conduire. Et finalement, c'est là où on rentre dans le vrai chantier de ce projet de loi, c'est de trouver des solutions alternatives de mobilité. Puisqu'il est hors de question, évidemment, d'interdire les gens de se déplacer, de leur priver de leur liberté, puisqu'on sait que la voiture en France est un vrai lien social, notamment pour les gens qui sont dans leur campagne. Donc, il faut vraiment trouver des solutions sur le plan national de transport adapté. Je travaille maintenant avec la ministre Sophie Cluzel, qui est très engagée, évidemment, sur les questions handicap. De handicap.
On l'a reçue
déjà.
Qui
connaît cette question des transports adaptés et qui m'a dit qu'il existe en France une flotte de navettes qui peuvent être exploitées pour des personnes dites vulnérables. C'est le mot qu'on utilise en ce moment. Et voilà, moi je pense que si on résout ce problème de solution alternative de transport, les gens qui ne pourront plus conduire ne le prendront pas mal. Et quand j'explique aux gens qui sont un peu réfractaires à cette mesure, qui pourraient voir le jour, je leur dis que personne n'a envie d'être à la place ni d'une victime, ni d'un responsable d'un accident. Moi, je pourrais avoir vu le conducteur qui m'a fauché, j'aimerais pas être à sa place. Parce que je pense que personne n'a envie de finir sa vie avec ça sur la conscience, avec l'handicap d'une autre personne sur la conscience. Et voilà, c'est pour protéger tout le monde, en fait, des mesures comme celle-ci. Et tous les autres pays en Europe le font, sauf la France et l'Allemagne.
Ce qui veut dire que vous pouvez espérer que cette loi passe dans un délai, ça fait 2 ans et demi hein, maintenant que vous vous battez, dans un délai proche, ou qu'est-ce qu'il faut encore ? Il faut convaincre qui, quoi, comment ?
Alors c'est un long combat, puisque effectivement ce projet de loi, ça serait pour tous les conducteurs, mais à partir d'un certain âge, on resserrerait la fréquence de ces tests, puisqu'on sait que d'une année sur l'autre, ça peut se dégrader très vite dans un âge avancé. C'est compliqué à faire passer. Je pense que ça sera un vrai sujet des prochaines présidentielles. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Il y a une toute nouvelle attention de la part du gouvernement. Je me souviens d'être venue dans vos studios, il y a 2 ans, où j'avais rencontré Monsieur Castaner. C'était la première rencontre. C'est parti de là. Et le gouvernement était vraiment réfractaire à prendre des mesures sur la sécurité routière. Ils étaient, c'est très touchy. Les personnes âgées, c'est compliqué. Il est hors de question de stigmatiser cette partie de la population, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être âgés pour être dangereux, qui ont des pathologies, des maladies dégénératives. Aussi, on oppose souvent les jeunes qui boivent au volant, qui sont plus dangereux que les personnes âgées, sans rentrer dans un débat en opposant les deux. Un jeune qui conduit bourré, c'est une infraction. Alors que moi, le conducteur qui n'était plus capable de conduire et qui m'a fauché, il n'était pas en infraction. Et c'est là toute la nuance aujourd'hui.
En tout cas, on suivra votre combat et on le soutiendra.
Donc, merci.
On aura plaisir à vous recevoir pour en parler, Pauline. Donc, on a des défis. On vous suit donc au championnat de France au mois de juin. On donnera de vos nouvelles à nos auditeurs. De toute façon, on en parlera parce que forcément, vous allez cartonner. Et puis 2024, on sera de tout cœur derrière vous, quoi.
Hein, merci beaucoup.
Ça m'a fait trop plaisir, Pauline. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec autant d'attention, je sais. Évidemment que vous étiez là, et notamment Céline qui nous a adressé un très joli mail que je vais vous faire passer parce qu'il vous est adressé. On se retrouve demain, nous, dès 14h30. On s'interrogera sur notre façon de parler et nos fautes de français. Vous constaterez d'ailleurs à cette occasion que la chanson française en est truffée. Vous allez vous marrer. Et si nous en commettons tous, eh bien on va bien se marrer et puis on pourra aussi finalement se corriger. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain sur RTL. Je vous embrasse.
RTL. On est fait pour s'entendre.